Merci de rester à l'écoute de RFI. Il est 11h à Paris, 10h en temps universel. Le journal, tout de suite, c'est avec vous, Florent Guignard. Florent, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal, de nouvelles libérations d'otages israéliens ce matin dans le cadre du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Et nous serons dans un instant en direct de Tel Aviv. Un accident entre un hélicoptère de l'armée et un avion de ligne à Washington aux États-Unis. 64 personnes étaient à bord de l'avion. Les États-Unis encore avec la dernière trouvaille de Donald Trump, qui veut créer un camp pour migrants à Guantanamo. Et puis la situation au Congo, Kinshasa, dans ce journal, avec plusieurs initiatives diplomatiques. Le chef de la diplomatie française vient d'arriver dans la capitale congolaise. Et puis dans 10 minutes après ce journal, vous retrouverez 8 milliards de voisins. C'est la troisième phase de libération des otages israéliens enlevés par le Hamas dans le cadre du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas. 3 otages au total, 2 civils et une militaire qui est arrivée tout à l'heure sur le sol israélien. On retrouve tout de suite en direct de Tel Aviv notre envoyé spécial Muriel Paradon. Muriel, vous êtes sur la place des otages à Tel Aviv où des centaines d'Israéliens suivent en direct les images de cette libération.
Et oui, il y a 2 heures environ, c'est effectivement Agam Berger, 20 ans, soldate israélienne enlevée dans sa base militaire le 7 octobre 2023, qui est apparue sur l'écran géant, vêtue d'un uniforme militaire, apparemment en bonne santé, mais le visage fermé. Elle a dû se prêter à la mise en scène du Hamas, montant sur une estrade et saluant la foule. Mais contrairement à ce qui s'est passé samedi dernier, où 4 de ses consoeurs soldates ont été amenés en voiture à Gazaville, Agam Berger, elle, est sortie à pied des ruines du camp de Jabalia dans le nord du territoire palestinien, au milieu des destructions, donc tout un symbole voulu par le mouvement islamiste. Sa libération a été accueillie ici à Tel Aviv par des cris de joie et des pleurs. Ça aurait pu être moi, témoigne Yaël, très émue, qui elle aussi faisait partie de ces observatrices de l'armée israélienne, ces jeunes soldates qui ont donné l'alerte le matin du 7 octobre lors de l'invasion du Hamas. Les Israéliens réunis ici attendent maintenant la libération de 2 autres otages civils, Abel Yaël, 29 ans, et Gabi Moses, 80 ans. Une vidéo a été diffusée ce matin, les montrant réunis, se prenant dans les bras, avant leur libération qui doit avoir lieu à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Cette fois, c'est le djihad islamique qui doit les relâcher, tout près de la maison de Yahya Sinwar, le chef du Hamas, tué par l'armée israélienne il y a 3 mois. Tout un symbole, là aussi.
Muriel Paradon, en direct de Tel Aviv avec Nicolas Benita. Dans le cadre de ce nouvel échange, Israël, de son côté, va libérer 110 Palestiniens et les premiers doivent arriver à Ramallah en Cisjordanie d'un instant à l'autre. Et puis, aujourd'hui en Israël, c'est l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, accusée par le gouvernement Netanyahou d'employer des militants du Hamas. Hier, la Cour suprême israélienne a validé cette interdiction de l'UNRWA en Israël. En Syrie, presque 2 mois après la fuite de Bachar el-Assad, la visite aujourd'hui pour la première fois d'un chef d'État étranger, l'émir du Qatar, qui doit être reçu par Ahmed al-Shara, le tout nouveau président de la transition, officiellement nommé hier, une transition qui s'accompagne d'une dissolution du Parlement, dissolution également de l'armée syrienne et de tous les groupes armés pour reconstruire l'armée de Syrie. Ça s'accélère sur le front diplomatique face à la guerre dans l'est du Congo, Kinshasa. On a appris il y a quelques minutes l'arrivée dans la capitale congolaise du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, alors que la SADC, la communauté des États d'Afrique australe, annonce un sommet extraordinaire demain à Harare, au Zimbabwe. Hier soir, dans un discours à la Nation, le président congolais Félix Tshisekedi a mis en garde contre un risque d'escalade régionale. Son homologue rwandais Paul Kagame déclare, lui, ce matin que les soldats sud-africains n'ont pas leur place dans l'est de la RDC, alors que la présence de soldats rwandais à Goma est avérée. Hier soir, Félix Tshisekedi a promis une riposte vigoureuse face à l'offensive des rebelles du M23 soutenue par le Rwanda.
Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolu à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FRDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise. afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale.
Extrait de l'allocution télévisée hier soir du président Félix Tshisekedi. 18 corps récupérés pour l'instant dans les eaux du fleuve Potomac à Washington aux États-Unis, quelques heures après la collision en vol entre un hélicoptère de l'armée et un avion de ligne d'American Airlines, un avion qui transportait 64 personnes et qui s'apprêtait à atterrir à l'aéroport Ronald Reagan. Les deux appareils sont tombés dans l'eau. Réaction cette nuit de Donald Trump. Cet accident aurait dû être évité, affirme le président des États-Unis, qui dit que la nuit était claire, les lumières sur l'avion brillaient, et qui pose cette question: pourquoi l'hélicoptère n'est pas monté ou descendu ou a effectué un virage? Donald Trump, par ailleurs, multiplie les déclarations et les initiatives sur l'un de ses thèmes favoris, l'immigration. Il ordonne ainsi la mise en place d'un camp géant pour y enfermer des migrants à Guantanamo. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Pour gouverner, il faut manier le symbole. Guantanamo, c'est la base américaine sur l'île de Cuba qui a accueilli et qui continue d'accueillir certains ennemis combattants capturés par les États-Unis après le 11 septembre 2001. Le message, c'est donc que les terroristes et les migrants, au moins les plus dangereux, doivent se retrouver au même endroit.
We have 30,000 beds.
Nous avons 30 000 lits à Guantanamo pour détenir les pires criminels étrangers illégaux qui menacent les Américains. Certains d'entre eux sont si terribles que nous ne faisons même pas confiance à leur pays pour les garder en détention parce que nous ne voulons pas les voir revenir. Donc nous les envoyons à Guantanamo, un endroit dont il est difficile, très difficile de sortir. La signature de ce texte nous rapproche aujourd'hui de l'éradication des crimes des migrants contre nos communautés une bonne fois pour toutes.
Et cette annonce, Donald Trump l'a fait lors de la cérémonie de signature de la loi qui oblige les autorités fédérales à détenir les migrants coupables de certains crimes et délits. C'est la première loi qu'il promulgue. Elle s'appelle loi Lake and Riley, du nom d'une étudiante assassinée par un migrant vénézuélien en Géorgie. Ses parents, fervents soutiens de Donald Trump, étaient présents à cette signature. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
RFI, les 11h08 à Paris, du foot dans ce journal après la fin de la première phase de la Ligue des Champions hier soir. On connaît donc tous les qualifiés pour les huitièmes de finale et on va s'intéresser dans ce journal au Paris Saint-Germain qui finalement poursuit sa route après un début laborieux dans la compétition. Hier soir, les Parisiens sont allés chercher une belle victoire sur la pelouse de Stuttgart en Allemagne. 4-1, Cédric de Oliveira.
Pour une fois, le PSG n'aura pas eu le temps de gamberger. Une semaine après leur récital face à Manchester City, les Parisiens ont surclassé Stuttgart. Une soirée assez tranquille pour le gardien de but, Gianluigi Donnarumma, et ses coéquipiers.
L'équipe a fait un très bon match, beaucoup de possessions, beaucoup de pression. Et je pense qu'on a mérité de gagner 4-1.
Après 5 minutes de jeu, Paris avait déjà marqué par Bradley Barcola avant un festival d'Ousmane Dembélé, auteur d'un triplé. Le numéro 10 parisien qui a enchanté son président Nasser El Khelaïfi.
Très content pour Ousmane Dembélé pour marquer le premier hat-trick avec nous. C'est magnifique de la Ligue Champions, c'est très important, ça fait très très bien.
Dembélé impressionnant à l'image de toute l'équipe parisienne qui, malgré la réduction du score allemand, est retombée sur ses pieds. Au bord de l'élimination il y a quelques jours, Désiré Doué et ses partenaires terminent 15e et joueront les barrages. Ce sera forcément face à un club français.
Oui, c'est ce que j'ai entendu, apparemment ce sera Brest ou Monaco. Mais quel que soit l'adversaire, voilà, on va donner le meilleur de nous-mêmes. On est déterminé à aller le plus loin possible et on va le montrer sur les prochains matchs.
Ambitieux, les Parisiens ne se fixent apparemment aucune limite. Ils vont pouvoir savourer leur qualification en attendant le tirage au sort qui désignera leurs futurs adversaires. Cédric de Oliveira, Stuttgart, RFI.
Un tirage au sort prévu demain en Suisse avant le match aller le 11 ou le 12 février. Il est 11h10 à Paris, c'est la fin de ce journal. À suivre dans un instant sur RFI, 8 milliards de voisins.